Bonsoir mes frères et sœurs. Que c'est bien de s'entretenir par des cantiques. Vous êtes d'accord? Nous allons ouvrir le livre, le saint livre, dans la deuxième épître de Samuel, pour voir comment Dieu parle de David. De Samuel, il y a beaucoup de textes où Dieu parle de cet homme. Je crois que sur les 66 livres, il y a 40 livres qui nous parlent de David. Et regardez ce qu'il dit. De Samuel, chapitre 7, verset 14. De Samuel, chapitre 7, verset 14. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Amen. Nous le relisons, s'il vous plaît, parce que c'est un verset, bien sûr, qui, par projection, nous concerne. Dieu pourrait dire la même chose de nous. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui. Nous allons lire le psaume 55, c'est un psaume de David qui traverse un moment de chagrin, d'agitation, de malheur, de colère, de tremblement, de crainte, d'épouvante, de frisson. Ça fait beaucoup, non? Vous savez, il y a des moments, c'est cumulé, les épreuves. Psaume 55, regardez bien l'expérience d'un homme de Dieu, d'un homme qui a toujours cherché Dieu dans toutes les épreuves. Psaume 55, verset 2. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin, et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Dans les cantiques, vous avez remarqué que plusieurs fois, il y a écrit une pause. C'est une pause musicale. En vérité, ça nous permet, c'est pas poétique, ça nous permet de réfléchir ce qui vient d'être dit. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs, l'iniquité et la malice dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elles, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami, ensemble nous vivions dans une douce amitié. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu, etc., etc. Regardez le verset 22. Ça va loin, ce psaume. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Vous avez vu cette parole? La guerre dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Et regardez le conseil, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Et tout le monde dit Amen. Amen. Les psaumes, ce n'est pas que des psaumes de louange. Il y a des psaumes qui indiquent la souffrance qu'un homme peut avoir. Il y a des psaumes qui indiquent les supplications qui peuvent être dans notre cœur parce qu'on traverse des épreuves. Mais le premier verset que j'ai lu, lorsque Dieu parle de David, et il pourrait dire bien sûr, c'est biblique, toute la même chose de nous, ma grâce ne s'y retirera pas de lui. La vie avec Dieu normale, est caractérisée par la grâce et par la paix. un chrétien qui perd la grâce et qui perd la paix est un chrétien qui s'est éloigné de Dieu. Il peut être chrétien, il peut être croyant, aller dans une église, etc. Mais c'est que du cinéma. Un chrétien peut dire « La grâce de Dieu ne se retirera pas de moi. » Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de grâce. D'ailleurs, quand David a été appelé par Dieu lui-même le chantre de l'Éternel, vous comprenez bien que ce n'est pas parce qu'il a composé des cantiques, ce n'est pas parce qu'il faisait de la musique, de l'excellente musique, comme c'était le cas tout à l'heure. La musique et les cantiques ne remplaceront jamais la communion avec Dieu, mais une véritable communion avec Dieu amène de beaux cantiques. Ça, c'est important de le comprendre. La grâce. Ma grâce ne se retirera point de lui. Vous savez qu'on peut se priver de la grâce ? Est-ce que vous le savez ? C'est écrit dans la parole ? Oui, c'est très bien. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15, comme l'a si bien dit Jonathan. Il y a un autre texte aussi où il est dit que nous qui travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que je reçois, mais je reçois, ça ne sert à rien. C'est exactement le cas d'une réunion comme celle-ci. Nous pouvons recevoir. Est-ce qu'on peut recevoir au travers d'un cantique ? On peut recevoir. Est-ce qu'on devrait recevoir au travers d'une réunion ? Oui. Même au travers de la communion fraternelle, c'est incroyable les bienfaits qui peuvent se manifester lorsqu'on vit dans la communion fraternelle. Je suis fatigué, je suis pas bien. Tout à l'heure, je peux demander à Jonathan, tiens Jonathan, est-ce que vous pourriez prier avec moi ? J'ai pas osé le faire pendant la réunion. Est-ce que Dieu peut exaucer une prière qui est faite en catimini avec un autre frère ? Combien de gens se privent de la grâce ? Et lorsqu'ils sont dans l'épreuve, eh bien, ils ont ce réflexe terrible que David a eu lui aussi. Malgré toutes les épreuves qu'il a pu traverser, il avait envie de fuir. Vous avez vu, si j'avais les ailes de la colombe, je fuirais. Et combien de gens ont fui, combien de gens sont rétrogrades, combien de gens sont semblables à des fils prodigues. La grâce, tiens, voyons, on parle de la grâce, mais les gens sont même incapables de signifier ce que c'est la grâce. On va lire un verset qui explique bien ce qu'est la grâce, c'est dans Tite. Dans Tite au chapitre 2, c'est certainement une des meilleures définitions de la grâce. Dans tous les livres d'ailleurs de la doctrine, il devrait prendre ce verset pour la résumer. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Ces deux versets, c'est des versets que vous pouvez apprendre. Parce que vous saurez si vous vivez dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne fait pas que nous couvrir de notre péché. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Tite chapitre 2, versets 11 et 12. J'espère que vous avez votre Bible et que vous notez ces références. Pour moi, je ne le dis pas avec mépris, pour moi c'est presque impossible de faire des progressions, note pas les versets. Vous croyez que j'exagère ? Moi je le pense vraiment, qu'on devrait dire, tiens, je vais noter cette affaire. Demain, pendant mon culte personnel, je vais revenir sur tous les textes qui ont été lus hier soir, au cas où le Saint-Esprit voudrait que je m'applique, parce que c'est quand même écrit. Comment s'appliquer si on n'écrit pas au moins les textes qui ont été lus pendant la prédication ? Tite chapitre 2 verset 11. Regardez ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne. Oui, la grâce de Dieu, elle ne fait pas que nous couvrir. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La véritable grâce de Dieu, c'est pas, je le répète, qu'une couverture qui couvre notre péché. La grâce de Dieu, elle a cette faveur extraordinaire, c'est de nous enseigner à vivre selon une véritable piété. Et vous savez que ce qui caractérise et ce qui caractérisera de plus en plus l'Église de la fin des temps, c'est que les gens, ils auront l'apparence de la piété. C'est écrit ça? C'est un des signes de la fin des temps. Et c'est un signe, mais c'est flagrant. Beaucoup de gens ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'ils peuvent prêcher, ils peuvent lire, chanter tous les cantiques. Est-ce que parce que quelqu'un connaîtrait tous les cantiques par cœur, il aurait une véritable piété ? Est-ce que parce que quelqu'un va à l'église tous les dimanches, il a une véritable piété ? Non. Les gens peuvent dire, oh ce chrétien, quel homme pieux, il va à l'église tous les dimanches, je le vois, il se promène avec la Bible sous le bras. Quelle piété ! La piété, c'est pas ça. Bien sûr que ça en fait partie, mais la piété, c'est quelque chose de vrai. Je vis avec le Seigneur. je respecte la parole de Dieu, je m'applique, la grâce, elle m'enseigne à renoncer à certaines choses, je ne peux que être en bénédiction aux autres, je ne peux que vivre selon le siècle présent, comme on l'a lu. Dans le siècle présent, vous avez vu le verset 2 ? Aujourd'hui, vous pouvez vivre dans la sagesse, dans la justice et dans la piété. Oui, le psaume qu'on vient de lire nous rappelle que la vie, elle est faite de combats. On l'a vu dimanche, que l'accusateur, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait l'accusateur ? Oui, ben, merci. Merci pour la précision. Qu'est-ce qu'il fait l'accusateur ? Il nous accuse jour et nuit. C'est un combat continuel. Il doit être vécu dans le repos. Bien sûr qu'un chrétien qui combat le bon combat est un chrétien qui est rentré dans la piété et qui est rentré dans le repos. Pourquoi beaucoup de chrétiens se découragent, abandonnent, chutent, etc. ? Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos. Et on les pousse à dire, voilà, combattez le bon combat, il faut combattre le bon combat, il faut avoir toutes les armes de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Il faut d'abord entrer dans le repos de la foi. Connaître ce qu'est la véritable piété. Et David, pourquoi Dieu a dit « Ma grâce ne se retirera point de lui » ? Eh bien parce que c'est un homme dans les combats, dans les épreuves, dans le chagrin, dans les pleurs, dans les difficultés. Vous relirez le psaume et ses psaumes. Et vous verrez que ça n'a pas été toujours facile pour David. Mais il sait ce qu'est la grâce de Dieu. Saül, est-ce qu'il savait ce qu'était la grâce de Dieu ? On peut se poser la question. Alors c'était dans la suite du verset qu'on a lu en premier. Il ne la connaissait pas. Pourquoi David a été restauré ? Parce qu'il connaissait la grâce de Dieu. Pourquoi Saül n'a pas été restauré ? Parce qu'il ne connaissait pas la grâce de Dieu. Il pouvait en parler, certainement, comme moi je peux en parler. Mais parler d'une chose, c'est bien. L'expérimenter, c'en est une autre. Donc, ce psaume, on est là avec ce psaume. Alors, on revient à ce psaume, s'il vous plaît, dans le psaume 55. Est-ce que ça vous a déjà été arrivé d'être déçu, contrarié, affligé ? Qui n'a jamais été contrarié ? Qui n'a jamais connu la douleur ? Et vous voyez, dans ce psaume, c'est bien de le dire, parce que c'est ça, cette honnêteté. Moi, ce que j'apprécie dans la Bible, c'est cette honnêteté. Cette honnêteté qui nous pousse à l'obéissance, pas une honnêteté qui nous pousse à désobéir, soyons sérieux. Psaume 55, vous voyez, verset 7, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos, je fuirais bien loin. » Mais ce n'est pas tout à fait ça que Dieu veut. C'est l'erreur, ça. Le fils prodigue, c'était quoi son erreur ? C'était quoi l'erreur du fils prodigue ? Très bien, une erreur de jugement. Il a cru qu'en demandant sa part et en faisant ce qu'il voulait, il serait heureux et il serait libre. Et c'est devenu un esclave, misérable, perdu, vivant dans la débauche et la misère. Il a fait une erreur de jugement. Et c'est ce qui se passe quand on fuit. C'est facile de fuir. Pourquoi tant de gens, alors ne pensez pas que je méprise qui que ce soit, pourquoi tant de gens sont tombés dans le divorce ? C'est une fuite, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer de réparer des fois ? Non ? Alors ne jugeons pas, au contraire, aidons tous ceux qui ont traversé ces choses, parce que souvent ce n'est pas leur faute en plus. Mais mes frères et sœurs, la fuite, plus on fuit, plus on s'embourbe. Alors on va lire deux versets qui l'indiquent bien. Dans Ésaïe 30, vous savez, au chapitre, au verset 15, on connaît bien le verset 15. Ésaïe, chapitre 30, verset, c'est le verset 16, pardon. Ésaïe 30, parce que je cite souvent le verset 15. Mais justement, quand on ne veut pas rentrer dans le repos, eh bien on fuit. Vous savez ce texte où Jésus dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et vous ne l'avez pas voulu. Mais la suite indique ce qui se passe quand on ne veut pas vivre dans le repos. Ésaïe 30, verset 16, « Vous avez dit, nous, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course, nous monterons des coursiers légers, et vous lirez la suite. » Ils n'ont pas pu obtenir la grâce qu'ils auraient dû obtenir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, « Non, nous prendrons la course à cheval. » Regardez cet autre verset. Alors c'est le prophète Amos. Après, vous savez, après les grands prophètes, il y a Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos. C'est pour vous aider à trouver le livre rapidement. Dans Amos au chapitre 5 et au verset 19, regardez ce verset. Il en dit long sur ce qui se passe lorsqu'on espère que ça va s'arranger en fuyant. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ce verset, et moi je m'y suis arrêté. Parce que j'ai tellement vu de chrétiens qui, en fuyant, se sont embourbés de plus en plus, ce verset l'exprime bien. Regardez bien. « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. » Qu'est-ce qui se passe? Il fuit devant un lion et en fuyant, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre un ours. Il fuit encore, il gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, il se croit soulagé. Je suis arrivé à la maison, ça y est, je suis en sécurité. Il s'appuie sur la muraille, qu'est-ce qui se passe? Et que mord un serpent. Ça fait... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire... Mais de toute façon, c'est facile à comprendre. Vous n'avez jamais fui un problème, et en fuyant un problème, vous en avez rencontré un autre. Hein? Combien de fois, les gens, ils sont aveugles. Ils ne se rendent pas compte de cette affaire. C'est écrit, c'est le Dieu, le Seigneur du ciel, qui a voulu cette image dans la Bible pour indiquer qu'on fuyait un problème, et en fin de compte, comme on le fuit, eh bien on en rencontre un autre. Et comme on fuit encore le deuxième, on en rencontre un troisième. Jésus en parle dans les paraboles d'une manière peut-être un peu plus simple, mais il explique bien que lorsqu'on n'accepte pas une persécution, une tribulation à cause de la parole, on y trouve une occasion de chute, et c'est écrit, alors Dieu le sait, parce que Dieu pourrait empêcher ces choses. On pourrait dire, tiens, mais si Dieu empêchait ces épreuves, si Dieu empêchait ces tribulations, si Dieu empêchait qu'un frère, un ami, comme David dit dans le psaume 57, toi, mon ami, on allait ensemble à l'église, et tu m'as mis de travers, si je ne l'accepte pas. Et oui, et Dieu permet toutes ces choses. Pourquoi Dieu permet tant et tant d'épreuves pour que nous apprenions à nous confier vraiment en lui. Et je voudrais prendre ce verset quand même qui est extraordinaire. Moi, je sais que c'est un verset qui a changé mon ministère. Dans Ésaïe, au chapitre 40, vraiment, je peux dire que ça a été un tournant dans mon ministère. Ésaïe, chapitre 40, on va lire du verset 27 au verset 31. Lisons-le comme si on le lisait pour la première fois. Regardez bien, je le répète, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous comprendrez la différence entre fuir un problème et puis après être porté par Dieu? Ésaïe chapitre 40 verset 27, c'est des questions, il y en a des centaines dans la Bible. Ésaïe 40 verset 27, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Alors on pourrait mettre le nom de l'église, on pourrait mettre le nom de quelqu'un. Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Vous voyez comment les chrétiens ils sont loin de Dieu, tout le temps en train de poser des questions, et pourquoi ceci, et pourquoi ceci? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Peut-être que le problème il est là. On le sait mais on ne l'a pas appris. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si vous avez compris ma prédication, vous avez fait la différence entre le verset dans le chapitre 57 des psaumes. Et là, ce texte, on voit un homme qui dit « Si j'avais les ailes de la colombe, je fuirais. » Il fuit les problèmes, on comprend. En plus, c'est pas un reproche. « Si je pouvais fuir, je fuirais, je m'élèverais. » Et là, dans ce texte, on voit que Dieu compare un homme qui se confie en Dieu à quelqu'un qui prend un envol. Vous savez, c'est une chose de prier. C'est une chose de croire. Mais ça n'est une autre de se confier vraiment en Dieu. Et moi, je me souviens de cette époque, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tant pis pour ceux qui viennent pour les premières fois, c'est bien que vous l'entendiez. Combien, je me souviens de cette époque où j'étais en train de prier et je disais, Seigneur, je ne comprends pas, tu dis que ceux qui prient, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Moi, tu vois, je prie, et c'est vrai en plus. Et je sais que le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, mais il n'est pas écrit ceux qui prient. Il est écrit ce qui se confie en l'Éternel. Et on peut prier pour prier et sans se confier en Dieu. Il y a des gens qui prient, c'est des sources de problèmes. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai même acheté un bouquin sur les aigles. Pour voir, parce que comme Dieu en parle souvent, regardez dans le psaume 103. Regardez quand même. Vous pouvez faire une étude là-dessus. En plus, aujourd'hui, avec Internet, franchement, il n'y a pas de problème. C'est gratuit, en plus. Tiens, pourquoi Dieu parle si souvent des aigles? Pourquoi il est dit dans le psaume 103? Regardez ce psaume. Là, on voit quelqu'un enfermé dans une fosse. C'est David encore qui parle. Il a expérimenté dans le psaume 55. Il a vécu certaines choses. Et bien après, il va les exprimer autrement. Dans le psaume 103, regardez. C'est lui, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Dans une fosse, il n'y a que ceux qui sont comme les aigles qui s'en sortent. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce qu'un aigle rajeunit? C'est Dieu qui parle. Et moi, je me suis interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu me fais rajeunir comme l'aigle. Et sur un livre sur les aigles, je me suis rendu compte que l'aigle, ça s'appelle, au milieu de sa vie, écoutez bien, on appelle ça la mue de l'aigle. Au milieu de sa vie, l'aigle passe par une crise. Écoutez bien. Et tout d'un coup, même si c'est une aigle femelle, si elle a des petits, elle va les abandonner. Elle passe par un moment de crise. Elle va rester prostrée sur son nid en haut des rochers là-haut. Elle ne va pas bouger pendant parfois plusieurs jours. Et puis elle va commencer à se débattre, à se frapper les ailes contre les rochers, à se frapper la tête contre le rocher. Elle va faire sauter son bec. Elle va casser son bec. Ça dure plusieurs jours. Un bec nouveau va lui pousser, des ailes nouvelles vont lui pousser, et quand elle meurt plus jeune qu'au milieu de sa vie. C'est comme ça que Dieu a fait les aigles. Et cette image, elle est là dans la Bible. Alors, ce n'est pas au niveau physique, mais au niveau spirituel, on passe tous par des crises, et à un moment donné, il faut apprendre à faire confiance à Dieu qu'il peut nous faire spirituellement rajeunir. Tu me fais rajeunir comme l'aigle. Ça serait intéressant, on n'a pas le temps ce soir, mais de prendre tous les textes sur les aigles dans la Bible et de voir où se situe un aigle. La Bible dit dans Job que l'aigle, il est niché dans les hauteurs. Les passereaux, là, tout à l'heure, les moineaux, ils ont dû passer un mauvais moment. Ah non, les aigles, eux, ils sont toujours à l'abri. Toujours. Ils ne volent pas, ils planent. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les vents. Et mes frères et sœurs, si Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, et je le dis bien, il y a tant de gens qui ne seront pas debout quand Jésus reviendra, il y a plein de chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas moitié convertis. C'est ça le problème, ils ne sont pas nés de nouveau. Jésus a même dit au docteur d'Israël, c'est-à-dire le top niveau dans la catégorie des chrétiens, des croyants à l'époque, c'était Nicodème, le docteur d'Israël, c'est-à-dire c'était le pasteur des pasteurs. Il lui a dit, écoute Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Donc la condition elle est là pour tout le monde, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Quand Dieu dit quelque chose, est-ce que je le crois? Est-ce que spirituellement, on peut rajeunir comme l'aigle? Est-ce que vous croyez que maintenant que vous êtes au milieu de votre vie chrétienne, vous pouvez passer par une crise, une épreuve? Vous voyez, même David dit, même un chrétien, un ami m'a tourné le dos. Oh, j'accepte pas ça, moi. Un pasteur, il m'a déçu. Ah, il m'a déçu, moi c'est terminé, je ne mets plus les pieds à l'église. Eh bien, vous voyez, là on ne prend pas le chemin de l'aigle. Là on prend le chemin des étourneaux qui se prend la tête dans les buissons. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez être un aigle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être un aigle? 1, 2, 3, 4. Mais Dieu le voit. Parce que vous savez, quand Dieu dit, je ne retirerai pas ma grâce de lui, quand il fera le mal, je m'occuperai de lui pour le former. Vous l'avez lu avec moi? Vous l'avez lu oui ou non? Ce que Dieu a dit à David, il le dit à chacun. Est-ce que j'accepte l'épreuve que je suis en train de traverser? Est-ce que je dis cette épreuve, mais tu t'en sors pas, tu apprends rien, la grâce, elle devrait t'enseigner à vivre dans la piété? Pourquoi moi je vous demande de noter les versets? Je ne vous demande pas de noter la prédication, je vous demande de noter les versets. Parce que si le Saint-Esprit me conduit dans un moment comme celui-ci, mettez-vous bien en tête que c'est Dieu qui me donne des versets pour que vous puissiez à votre tour les méditer. Tiens, mais moi je vais méditer cette affaire, tiens, je vais prendre ma concordance et taper tous les textes qui parlent sur les aigles. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi je n'ai pas envie de fuir, vous voyez, comme un oiseau là qui fuit, je veux, tiens, est-ce qu'il y a un autre verset qui parle des ailes, des plumes? Tiens, le psaume 91. Pour terminer. Sinon, si je fais tous les textes, on va être là encore demain matin. Psaume 91, regardez. Regardez, et là c'est pareil, c'est pas une question de prière, c'est une question de confiance totale. Qu'est-ce que ça veut dire se confier en Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire espérer en Dieu? Regardez le psaume 91. Je ne sais pas si nous nous arrêtons sur ces psaumes. Voyez, je vous demande de prendre des notes. Est-ce que demain vous pourriez, demain matin, vendredi matin, samedi matin, méditer le psaume 91 et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ce psaume? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous voyez, on n'est pas dans la prière là, on est à la confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Personne ne dit rien? Est-ce que ça vous suffit pas? Est-ce que ça ne vous bénit pas? Est-ce que ça ne vous fortifie pas? Dieu dit que celui qui se confie en lui, c'est-à-dire celui qui espère en lui, une âme qui espère en Dieu, il faut l'expliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, j'espère que ça ira mieux. Ils n'espèrent pas, ils sont dans le désespoir complet. J'espère que Dieu existe. Mais moi quand je dis que j'espère, c'est que je sais que c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible parle d'espérance, ça veut dire que vous vous abandonnez complètement. Complètement lui. Et un aiglon qui connaît sa mère, hein, vous n'avez pas vu dans certains reportages, mais c'est un truc de fou. Quand l'aiglon commence à voler, la mère, vous savez ce qu'elle fait? Elle le pousse. Elle le pousse hors du nid. L'aiglisse, il apprend à voler. Et vous savez ce qu'elle fait, la mère? Elle pique sous lui pour le reporter au nid, si arrive à pas s'envoler. Il te portera, c'est écrit. Mais vous croyez que Dieu est assez puissant pour porter ses enfants? Qui le croit vraiment? Que Dieu est puissant pour vous porter, que Dieu est tout puissant pour faire ce qu'il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Vous comprenez, c'est une chose d'aller à l'église, c'est une chose de prier, c'est une chose de chanter, c'est une chose d'aller aux réunions. Mais laissez-moi vous dire que c'est quand même quelque chose. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant, il doit être exactement comme les fils de Noé lorsqu'ils étaient certainement accoudés sur leur bateau, là, ils savaient qu'ils ne risquaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'abri. Ça devait être triste de voir ce qui se passait. Franchement, ça devait être un truc de fou. Mais ils étaient à l'abri. Ils ont dû voir tout ça. Je ne sais pas comment ils regardaient. Ils étaient à l'abri, oui ou non? Ils étaient à l'abri du jugement. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, qui demeure en Dieu, il est à l'abri. Le jugement, il vient. La colère de Dieu, elle vient. Vous le savez. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est à l'abri sous ses ailes. Alors ce refuge, cette forteresse, parce que pour quelqu'un peut dire, oui, une forteresse, c'est quoi? C'est ces fameux blocos? Non! La forteresse du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous protège sous ses ailes. Vous vous sentez à l'abri ou vous ne vous sentez pas à l'abri? Vous avez peur du lendemain? Vous êtes là, inquiet, comment on va faire? Comment je vais? Moi j'ai vu des chrétiens vachement bien. Tu es encore enceinte? Comment vous allez faire? Avec les temps difficiles, comment vous allez faire? Je te plains. Et puis après, on parle en langue dans l'église. Vous voyez, mais on fait bon. Je pense que là, il y a un petit problème. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit, ma grâce ne se retirera pas de toi. Si tu marches dans mes voies, si tu restes à l'abri, ma grâce ne se retirera pas de toi. Et même si vous avez 10 gosses et que vous avez des difficultés financières, si vous confiez en Dieu, Dieu y pourvoira. Parce que Dieu y garde ses enfants. Vous entendez? Il te couvrira de ses plumes. Il te protégera de ses ailes. Que son nom soit béni. Et moi, je veux mourir comme cet aigle. Même si mon corps se détruit, c'est pas grave. Je veux que mon âme soit plus forte à la fin de ma vie qu'au milieu de ma vie. Comme Jacob. Jacob, il est mort comment? Vous avez vu toute sa vie, là, il a mis la pagaille. Et quand il meurt en bénissant ses enfants, ses petits-enfants. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Non, mais ça, c'est super génial. C'est exactement ça. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de causer des problèmes à l'église, causer des problèmes aux autres, tout le temps à eux-mêmes. Et il y a des gens qui utilisent leur vie tout le temps en bénissant les autres. Quel est votre choix? Vous voulez bénir les autres? Eh bien, que la grâce de Dieu vous enseigne. Que la grâce de Dieu vous permette nous permette de vivre dans ce monde. Oh, si j'avais vécu il y a 50 ans, j'aurais eu une foi formidable. Oh, si j'avais vécu du temps de Jésus, j'aurais une foi d'acier. Oh, si mon mari était chrétien, je serais formidable, je serais une chrétienne merveilleuse. Quand je serai à la retraite, je serai un chrétien solide. Écoutez, vous pouvez être solide ce soir, maintenant. Vous pouvez décider de dire, moi, je vais passer bientôt devant Dieu, je veux que ça se passe super bien. Oui, il te fait rajeunir comme l'aigle, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la philosophie, c'est la vérité. La grâce de Dieu, elle m'enseignera, elle ne se retirera pas de moi, point. C'est ce que vous voulez? De toute façon, ce n'est pas compliqué. Il nous sera fait selon notre foi. Et si nous prenons ces choses au sérieux, c'est pour ça que moi je vous dis, mais prenez des notes, relisez pendant 3-4 jours, 3-4 mois. Est-ce que c'est un exploit de lire pendant un mois le psaume 91? Vous savez, moi, hier, j'ai fait une expérience. Je voulais savoir d'où partirait la Troisième Guerre mondiale. Et j'ai su, parce que j'ai cherché. Si vous voulez, je vous le montre. C'est 50 € le renseignement. On en parlera plus tard. Mais je vous assure, c'est clair. C'est clair. Cette guerre, vous savez, où il y a un tiers de la population qui va mourir. Pourquoi? Parce que quand vous cherchez, vous trouvez. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Que son nom soit béni. On va fermer les yeux, tout simplement. On va lui demander qu'il nous aide. Je ne sais pas si vous avez besoin d'aide. Moi, je veux que Dieu m'aide plus fort encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ce que nous avons partagé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit Dieu? Pas qui croit en Dieu. Croire en Dieu, c'est sûr, si on est là. Enfin, je pense que si on est là, c'est qu'on doit croire en Dieu. Ça, c'est à peu près clair. Mais je ne vous demande pas si vous croyez en Dieu. Je vous demande si vous croyez ce que Dieu a dit. C'est pas pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, mais moi je veux m'emparer de ces textes. Je veux pas fuir et vivre dans l'illusion comme David a commencé à l'exprimer dans le psaume 55. Je veux vivre le psaume 91, le psaume 103. Ça dépend que de nous. Il vous sera fait selon votre foi. Seigneur Jésus, tu as dit aux hommes que s'ils s'approchaient du trône de la grâce, ils obtiendraient miséricorde, grâce et secours. Nous sommes heureux pour ces 2 heures que nous venons de passer ensemble, mais que les prochaines à venir soient utiles, Seigneur, et que nous nous endormions tout à l'heure à l'abri du jugement. Merci pour ton sang. Merci pour tes ailes, oui, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous voulons avoir ces ailes de la foi, cette aile de la confiance, cette aile de l'espérance. Seigneur Jésus, tu savais qui viendrait ce soir dans ce lieu. Tu vois celui qui est dans la crainte, dans le tourment, dans l'agitation. Tu l'as dit, Seigneur, que si on faisait le mal, nous serions agités. Accorde-nous cette grâce de vivre ce que nous avons partagé ce soir. Parce que c'est ta volonté que ta grâce ne se retire pas de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.